Vous êtes avec SBS French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour et bon dimanche. Il est 13h, vous écoutez le programme en français sur Radio SBS. Au programme aujourd'hui, et comme chaque dimanche, nous aurons de l'actualité, nous aurons de la culture et nous parlerons également de notre communauté, la communauté francophone en Australie. Mais pour débuter cette émission, eh bien passons à notre personnage de la semaine, l'actualité vue par une des personnes qui a marqué cette semaine.
French. Mardi, jeudi, samedi et dimanche, à 13h ou à tout moment, en ligne.
Milieu de terrain international français, Adrien Rabiot, surnommé le Duc, est notamment connu du grand public pour ses problèmes à répétition à Paris, mais aussi en équipe de France et cette semaine, une de plus avec Marseille qui ne compte plus sur lui. Retour sur une carrière jonchée de polémiques avec François Vantôme. François Adrien Rabiot s'est révélé être un talent pur dès son plus jeune âge au sein du Paris Saint-Germain.
Rabiot a tout juste 15 ans lorsqu'il commence son aventure avec le club parisien. Il est alors loin de se douter qu'il deviendra l'un des joueurs emblématiques pendant près de 9 saisons et sera même surnommé le Duc.
Alors que l'on s'attend à ce qu'il confirme son talent, on commence à percevoir la personnalité, disons, difficile d'Adrien et de son clan, mais il s'impose sur le terrain dans chacun de ses clubs.
Il lui faudra attendre 2012 pour qu'un certain Carlo Ancelotti, alors entraîneur de l'équipe première, le remarque et lui fasse intégrer le groupe professionnel. L'aventure avec son club de cœur débute. Alors que le joueur n'a que 17 ans, c'est sous l'ère de Laurent Blanc que le milieu de terrain obtient davantage de temps de jeu. Alors désireux de jouer, plus Adrien Rabiot souhaite explorer de nouveaux horizons. Le footballeur envisage son transfert vers le club italien de l'AS Rome, mais l'opération se solde par un échec. Le PSG lui tient rigueur de cette volonté de partir, le place à l'écart de l'équipe pro au début de la saison 2014 et 2015. Sous pression, Rabiot se réengage et obtient dans la foulée sa première titularisation en Ligue 1. Les saisons suivantes, il s'impose comme un joueur essentiel du dispositif parisien. La saison 2018-2019 est la dernière que le milieu de terrain passe sous les couleurs du PSG. En conflit avec la direction, Rabiot sera écarté des terrains une bonne partie de la saison. Il est libéré du contrat avec son club formateur et s'engage en 2019 avec la Juventus de Turin. Alors après des débuts poussifs, il s'impose parmi les Bianconeri et remporte un titre de champion d'Italie. En 2024, en fin de contrat, il décide de quitter le club de Turin et rejoint contre toute attente l'Olympique de Marseille.
On reparlera en effet plus tard de cette aventure marseillaise. En équipe de France, ce n'est pas vraiment plus calme.
C'est le moins qu'on puisse dire. Depuis ses débuts dans le football, Rabiot est régulièrement appelé pour défendre les couleurs de France, d'abord chez les jeunes, puis avec l'équipe première. L'année 2016, c'est celle de son intégration dans l'équipe A, évidemment trop lente à son goût. Il est réserviste, finalement non retenu pour l'Euro 2016. Rabiot joue quelques matchs après les compétitions, mais il alterne le bon et le moins bon. La Coupe du Monde se rapproche à grands pas, la polémique aussi, car dans un mail adressé à la Fédération française et au sélectionneur Didier Deschamps, le 22 mai 2018, Rabiot, de nouveau réserviste, indique qu'il refuse de se mettre à la disposition de l'équipe pour remplacer les éventuels blessés durant le Mondial en Russie. C'est une réaction d'orgueil qui lui veut alors d'être écarté de la sélection nationale pendant 2 ans. En 2020, Didier Deschamps le rappelle pour disputer la Ligue des Nations et le sélectionne pour participer à l'Euro 2020, qui a eu lieu en 2021 pour cause de pandémie. Alors cet Euro 2021 sera un échec personnel et collectif avec une élimination en 8e. Mais en l'absence de Paul Pogba et de N'Golo Kanté blessés lors de la Coupe du Monde 2022, Rabiot va enfin s'imposer au milieu de terrain avec un rôle de stabilisateur précieux. C'est lui d'ailleurs qui inscrit le but des tricolores contre l'Australie, battu 4-1. Titulaire lors des rencontres suivantes, il ne peut toutefois pas tenir sa place lors de la demi-finale contre le Maroc, étant victime d'un virus qui circule dans la délégation française. Il dispute toutefois la finale, mais il doit sortir au cours des prolongations pour cause de blessure. À l'Euro 2024, âgé de 29 ans, il compte plus de 50 sélections.
Le rôle de sa mère, agent, est complexe et divise.
Alors, elle est considérée par certains comme trop protectrice, voire autoritaire, ou au contraire par d'autres comme l'une des artisanes du succès de son fils. Véronique Rabiot a en tout cas plusieurs fois provoqué des tensions avec tous ses employeurs, sans aucune exception. Entre fin 2018 et mi-2019, Rabiot sera même mise à pied après avoir salué sur les réseaux sociaux la qualification de Manchester City face à son propre club en Ligue des Champions. En 2020, Rabiot a refusé de rentrer à Turin après la crise du Covid. Il se met en grève personnelle pour contester une baisse de salaire injustifiée selon lui. Chez les Bleus aussi, la présence d'Adrien Rabiot sur le terrain et de sa mère en coulisses a pu provoquer la polémique. Après l'élimination face à la Suisse lors de l'Euro 2021, Véronique Rabiot se serait laissée aller à des critiques acerbes sur les coéquipiers de son fils, ce qui provoque notamment la colère des clans Pogba et Mbappé dans les tribunes.
En septembre 2024, libre de tout contrat et après 5 années passées à la Juventus, Adrien Rabiot a décidé de signer à l'Olympique de Marseille. Son transfert fait grincer des dents les supporters parisiens qui n'hésitent pas à injurier le joueur et la maman du joueur dans le stade à l'aide de chants et de banderoles assassines. Et enfin, une nouvelle polémique à Marseille.
Le milieu de terrain de l'OM sort alors d'une première saison réussie et tout le monde le voyait devenir l'homme fort de cette seconde campagne olympienne. La défaite de l'OM vendredi à Rennes a laissé des traces plus importantes que prévues. Il est en effet impliqué dans une bagarre avec un équipier après le match. Selon l'équipe, Rabiot aurait saisi Rowe par le col avant qu'un nouvel affrontement plus violent encore n'éclate plus tard, ce qui nécessitera l'intervention du staff pour les séparer. La direction, elle a rapidement décidé la mise à l'écart des deux joueurs en évoquant un événement d'une gravité et d'une violence extrême. Le président de l'OM, Pablo Longoria, a écarté mercredi toute possibilité de maintien à l'OM du milieu de terrain des Bleus. On écoute le président de l'OM, Pablo Longoria.
Une telle agressivité, je n'étais pas dans les vestiaires, comme je me l'ai fait raconter dans tous les staffs sportifs, et de tous les staffs non sportifs qu'ils ont vécu ce qui s'est passé dans ces vestiaires, les commentaires, c'est quelque chose d'inouï dans tout ce que les différents gens avec des différentes expériences, ils ont vécu. Toi, comme club, comme institution, tu dois avoir une réaction parce qu'autrement, il n'y aurait pas de discipline, il n'y aurait pas de règles. Naturellement, qu'un club, il n'est pas content de devoir en fin août, de devoir prendre ce type de décision avec des joueurs qui sont très performants. Dans le cas d'Adrien Rabiot, un des joueurs majeurs de la saison dernière.
Alors que doit-on attendre dans les prochains jours?
Alors l'aventure marseillaise de Rabiot, une réussite jusqu'ici, avec une saison riche d'une qualification pour la Ligue des Champions et de 10 buts et 5 passes décisives, va donc se terminer au bout d'un an à peine. Et alors que la saison est déjà lancée et qu'il reste moins de 2 semaines avant la fin du mercato, eh bien l'ancien joueur de la Juventus va devoir trouver un autre club. Et il semble que plusieurs clubs italiens se sont déjà manifestés pour le nouvel enfant terrible du foot français, en attendant peut-être un nouveau rebondissement.
SBS en français. Partagez nos rubriques sur Facebook.
C'était le début des années 20, le début de la fin sûrement. Toi tu courais toujours en vain, ouais tu aimais gagner ton temps. Dans les trop tard de tes 30 ans, ouais tu étais déjà sous l'eau. Et tout l'apnée de ton dedans semblait te lancer des signaux. Tu changeais d'appartement, pour une 10e fois peut-être. Un peu de love et de tendresse, un peu de love et de tendresse.
Love and Tendresse, Eddie Depreto, en ce dimanche sur Radio SBS. Courte pause, on se retrouve dans quelques instants. On va parler du blanchiment du corail en Australie.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Blanchiment sans précédent sur les récifs de l'Australie occidentale suite à la vague de chaleur marine de l'année dernière. La vague de chaleur marine de l'été dernier a été la plus importante et la plus intense jamais enregistrée en Australie occidentale selon un nouveau rapport de l'Institut australien des sciences marines. Cette chaleur persistante a provoqué un blanchissement sans précédent des récifs d'Australie occidentale et les experts estiment qu'il faudra peut-être des mois pour connaître l'étendue réelle des dégâts. Un reportage de SBS News. Les récifs coralliens d'Australie évoluent rapidement selon Dr Thomas Holmes, responsable du programme de sciences marines au département de la biodiversité, de la conservation et des attractions.
So unfortunately the ones that are most susceptible are also the ones that people class with what you'd say beauty on a reef. So your staghorns and your platings, those corals that give it very bright colour and lots of structure. So the reefs of our future, I think, will still be there to some extent, but they will change in how they look and how they function.
Entre 2024 et 2025, l'Australie occidentale a connu le blanchissement corallien le plus important jamais enregistré dans l'État. Le blanchissement des coraux se produit lorsque les coraux expulsent les algues qui vivent dans leurs tissus, ce qui leur fait perdre leur couleur et les fait paraître blancs. Dr James Gilmore est scientifique à l'Institut australien des sciences marines. Il explique que la vague de chaleur est l'un des facteurs responsables de ce phénomène.
This is a combination of the most intense heat wave. It's also been the longest and it's covered the largest spatial area. So it's really covered 1500 kilometers of Western Australian reefs and it's gone on for several months.
Selon les scientifiques, la cause principale est la hausse des températures due aux émissions de carbone. Dr Gilmore affirme que le stress thermique était plus intense et plus répandu qu'auparavant.
So what we've seen is temperatures have increased by a degree or up to four, and that has remained for several months. So it's really that cumulative heat stress that has caused corals to bleach and in some instances cook and die.
La plupart des récifs coralliens de la côte nord-ouest de l'Australie ont été touchés par des épisodes de blanchissement cette année. Les récifs Mermaid et Clark, situés dans les bancs de Rowley, à environ 260 km au large de Broome, ont été durement touchés, enregistrant des pertes de récifs coralliens entre 61 et 90 %. Par ailleurs, le récif de Ningaloo, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, a connu un blanchissement important et une perte de 31 à 60 % des récifs coralliens.
We know, generally speaking, that it takes about a decade for a reef to recover from a severe bleaching event. But unfortunately, what we're seeing now at about 1.5 degrees above pre-industrial is that bleaching events are happening every few years. So they really are lacking this capacity to recover. There is some level of adaptation and there are some patches of reefs that are escaping. And that is really, pursuing those differences are really a focus for future research.
La Grande Barrière de Corail a également été touchée, ce qui constitue la première fois que deux récifs coralliens, classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, situés de part et d'autre du pays, blanchissent simultanément. L'année dernière, la Grande Barrière de Corail a connu le plus important déclin annuel de sa couverture corallienne jamais enregistrée dans deux de ces trois régions. Dr Gilmore affirme que les conséquences du blanchissement corallien vont bien au-delà du récif.
So we've seen in our symposium today that the consequences are far-reaching for the loss of corals. They obviously form the ecosystem. Many other animals feed on the corals or use the coral for shelter. But then we see these carry-on effects not only to corals but to fish, to bird life and to other marine mammals.
Plus de 100 scientifiques et gestionnaires marins se sont réunis à Perth cette semaine pour discuter des données recueillies au cours des 6 derniers mois. Ils vont maintenant s'efforcer de déterminer la capacité de reconstitution du corail. Ce reportage de Sydney Lang et de Asha Abdi de SBS News a été produit par Jean-Noël Ducasse pour SBS French.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
On a passé du temps à chercher dans nos vies un peu de couleur de soleil quand le ciel était gris.
Fallait qu'on se protège, qu'on évite les pièges.
C'est ce qu'on nous a dit.
Mais est-ce qu'on a réussi?
On s'est déjà tous égarés sur le chemin. Et besoin de quelqu'un qui nous tende la main. Il fallait qu'on nous dise que rien ne peut nous briser
si on avance ensemble.
À nous de changer d'écho.
Le monde de demain, chanté par les Enfoirés. Courte pause et on se retrouve dans quelques instants.
Vous écoutez le français sur Radio SBS.
J'ai le plaisir de recevoir Emmanuelle Delécoté, docteur en histoire de l'art et conservatrice de la photographie au Musée d'art moderne de Paris. Nous nous entretenons aujourd'hui en marge d'une exposition au Heidi Museum of Modern Art à Melbourne, une exposition qui met pour la première fois en dialogue les œuvres de l'Américain Man Ray, figure majeure du surréalisme parisien, et l'Australien Max Dupain, maître du modernisme photographique. Docteur Delécoté, bonjour et bienvenue sur SBS French.
Merci beaucoup.
Voilà, vous êtes une spécialiste de Man Ray, vous avez écrit beaucoup d'ouvrages scientifiques et aussi beaucoup de publications sur cet artiste de grande renommée. Mais c'est la toute première fois qu'une grande exposition met en regard Man Ray et Max Dupain. Du point de vue français, qu'apporte cette rencontre entre un artiste américain profondément lié à Paris et un photographe emblématique australien?
Je pense une grande découverte pour tout le monde, puisque Max Dupain, même s'il est très connu en Australie, en fait, est quasiment inconnu en France et en Europe. Et donc, c'est aussi la première fois, d'ailleurs, que Man Ray est associé à un autre photographe dans une exposition. Donc, c'est une double découverte, si je puis dire. C'est une nouvelle lecture de l'œuvre de Man Ray qui est faite ici, en regard d'un travail d'un artiste australien qui n'a pas connu Man Ray, c'est ça l'intérêt aussi, mais qu'il a découvert à travers sa publication en 1934. Donc c'est déjà la mondialisation dans les années 30, c'est ça qui est amusant.
Mais comment cette exposition contribue-t-elle à la compréhension de l'influence de Paris?
Disons que ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit à quel point donc les revues, les magazines à l'époque étaient véhiculés, donc toutes les l'avant-garde européenne jusque de l'autre côté de la planète. Et donc c'est très intéressant de voir à quel point Max Dupain, qui était très très jeune à l'époque puisqu'il a 20 ans de moins que Man Ray, comment pour lui ça déclenche un revirement total dans son travail et ça provoque un intérêt assez spectaculaire pour tout ce qui est recherche photographique et nouvelles techniques photographiques que Man Ray a donc mis en valeur dès le début des années 20.
En parlant de style artistique, le surréalisme est très ancré dans la culture française. Comment la dimension surréaliste de Man Ray se reflète-t-elle dans cette exposition et quelle résonance cela pourrait-il avoir pour un public australien?
Alors, on a la chance d'avoir ici un ensemble de Man Ray qui est très représentatif de toutes ces nouvelles recherches scientifique qu'il avait faite à l'époque, toutes ses découvertes sur la solarisation, la rayographie, la surimpression. Et toutes ces œuvres emblématiques sont présentes dans l'exposition. Le violon d'Ingres, Noir et Blanche, Les Larmes, toutes ces œuvres qui sont absolument modernes encore aujourd'hui. Donc l'exposition est donne un formidable aperçu de ce que peut être le surréalisme à l'époque dans les années 20 à Paris et comment justement Max Dupin qui est à l'autre bout, de l'autre côté de la planète a pu se l'approprier et le réinventer à sa propre manière. Donc c'est assez passionnant de voir cette discussion entre les deux artistes parce que c'est vraiment l'accrochage est fait de telle façon que les œuvres se répondent les unes aux autres, donc c'est vraiment une espèce de comme un jeu de ping-pong entre Man Ray et Max Dupin qui fonctionne très bien.
Et voyez-vous dans cette confrontation donc entre deux artistes qui ont une vision un peu différente, voyez-vous en cette confrontation une forme de pont culturel entre la France, foyer du surréalisme, et l'Australie?
Absolument, c'est justement ça qui est vraiment très flagrant dans l'exposition, c'est justement ce pont qui est créé, et encore une fois, c'est vraiment grâce aux revues de l'époque qui ont permis à toute cette iconographie au début des années 20, qui s'étend quand même uniquement, on va dire, entre Paris, Berlin, toute l'avant-garde photographique européenne, elle se propage dans le monde entier grâce à ces magazines qui circulent librement. Et donc, c'est cette découverte pour Max Dupin qui est faite à travers cet ouvrage que Man Ray publie en 1934 et qu'il est probablement l'un des premiers à acheter et à lire et à regarder. Donc, c'est une vraie découverte pour lui. Et je pense que ces magazines ont un rôle absolument fondamental dans ces échanges, en fait.
Ouais. Et cette exposition met aussi en lumière des collaborations intimes de Man Ray avec Lee Miller et de Max Dupin avec Olive Cotton. En quoi ces dialogues créatifs, souvent invisibilisés dans l'histoire de l'art, en quoi ces dialogues nourrissent-ils la lecture des œuvres?
Alors, ce qui est bien sûr important aujourd'hui, c'est de revaloriser des artistes femmes qui ont souvent vécu dans l'ombre de leurs compagnons. Donc, évidemment, Lee Miller, je pense, grâce notamment au récent film qui est sorti et qui a eu beaucoup de succès, est largement plébiscité depuis quelques années, alors que Olive Cotton, malheureusement, n'a pas bénéficié, je crois, jusqu'ici de cette visibilité. Donc, c'est une belle découverte, je pense, de pouvoir mettre en regard ces deux artistes femmes qui ont un immense talent et qui ont été un peu oubliées. Malheureusement, comme ça arrive souvent avec des femmes d'artistes qui sont elles aussi artistes. Ben là, bien sûr, on découvre avec beaucoup de plaisir les images de ces deux artistes qui sont mises en regard et en lien aussi avec leurs compagnons. Et effectivement, là aussi, les échanges entre les quatre artistes, du coup, fonctionnent très bien.
Et quelle place souhaitez-vous redonner à ces figures, dans ces femmes, donc, dans le récit artistique?
Ben, elles ont une place, disons, centrale, parce qu'elles sont à la fois des muses, mais aussi des créatives. Elles sont aussi créatives de leur côté, donc elles ont toute leur place. Elles ont la même place que les hommes, ouais. Tout simplement.
Ouais. Mais ils sont souvent oubliés, donc vous les remettez en valeur, ce qui est bien. Et pouvez-vous nous raconter une œuvre ou un accrochage particulier qui illustre le mieux cette conversation transcontinentale entre Man Ray et Max Dupin?
Je prendrai l'exemple de Érotique voilier, qui est une des œuvres emblématiques de Man Ray, qui met en scène Merritt Oppenheim dans une presse. C'est vraiment une des œuvres qui a été commentée par André Breton, et donc on voit cette femme nue dont le corps rentre en collision en quelque sorte avec une machine qui est une presse d'imprimerie, une espèce de grande roue qui normalement sert à presser pour imprimer le papier, et elle est recouverte en partie d'encre, et donc il y a ce rapport du corps à la machine. Évidemment, ces contrastes noir et blanc, ces contrastes extrêmement fort et extrêmement à la fois qui met en scène une forme d'érotisme, bien évidemment. Et on a accroché cette série en lien avec une autre série de Max Dupin, où là aussi le corps rentre en relation avec des roues qui sont pas des roues d'une presse, mais dont on voit bien que Max Dupin s'est inspiré de l'œuvre de Man Ray pour retravailler lui aussi à sa manière les contrastes entre le corps humain et la machine. Cet accrochage est assez emblématique au fond des réinterprétations qui sont possibles par Max Dupin à partir des œuvres de Man Ray, et ça fonctionne aussi très très bien.
Avant de conclure, en tant que commissaire française, qu'espérez-vous que le public australien retienne de Man Ray, et qu'aimeriez-vous que le public français découvre de Max Dupin?
Alors, je pense que la première chose qui va être intéressante, je pense, pour le public, c'est de découvrir à quel point Man Ray finalement a eu une influence jusqu'en Australie dès les années 30, ce qui est quand même assez exceptionnel. Et je pense que pour le public français, ça va être la découverte d'un grand artiste australien, puisque je pense que quand même un grand nombre de Français ne connaissent pas le travail de Max Dupin, même s'il existe une photo que tout le monde connaît de cet homme sur la plage dont allongé, dont on voit seulement le haut du dos. Je pense que ça, c'est une photo qui a fait le tour du monde, mais en vérité, personne n'a mis de nom dessus. Donc je pense que c'est une grande découverte à la fois pour le public australien, à nouveau de Man Ray, parce qu'il y a déjà eu une exposition Man Ray, mais enfin, c'était il y a plus de 20 ans, donc déjà, ça permet de redécouvrir Man Ray pour toute une génération. Et puis, ce lien entre l'Australie et la France, qui finalement est assez exceptionnel, et je pense que ça, pour ça, ça a un grand intérêt.
Docteur Emmanuel Delécoté, merci infiniment d'avoir pris le temps de nous parler de cette exposition. Une exposition qui met en dialogue les œuvres de l'Américain Man Ray et l'Australien Max Dupin.
Merci à vous de porter votre intérêt sur l'exposition.
SBS en français. Partagez nos rubriques sur Facebook.
L'amour qui fait tomber les cheveux, l'amour qui nous bande les yeux, l'amour vendu au plus sensible par des putains de vicieux, l'amour qui nous fait croire que lui c'est eux, que ça ne sera jamais mieux, l'amour de vicieux, l'amour qui nous fait croire que lui c'est eux, que ça ne sera jamais mieux. S'est passé silencieusement pour arriver finalement à, au pire des tableaux, au croupissant, la laissant éternellement belle au bois dormant, la laissant éternellement belle au bois dormant.
C'était Les Dormantes de Zao de Sagazan en ce dimanche sur Radio SBS. Courte pause, on se retrouve dans quelques instants.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Vous écoutez le français sur Radio SBS.
Donc, j'ai le plaisir de recevoir Anna Trichet-Laurier, productrice du documentaire Nancy, un documentaire qui suit de très près deux sœurs, alors qu'elles accompagnent leur grand-mère dans sa traversée d'une forme de démence. Anna Trichet-Laurier, bonjour et bienvenue sur SBS French.
Bonjour.
Voilà, Nancy, ce documentaire nous fait découvrir, donc, au passage, des secrets de famille, des moments de joie inattendus et des moments très intimes. Qu'est-ce qui vous a inspiré, vous et votre équipe, à raconter l'histoire de Nancy sous un angle aussi personnel et intimiste?
Pour moi, c'était une histoire très personnelle parce que lorsque ma grand-mère a été diagnostiquée d'une forme de démence, j'ai pas été du tout accompagnée par ma famille, qui probablement, eux, n'étaient pas non plus au courant des choses possibles à faire dans ces situations. Et j'ai décidé de ne plus voir ma grand-mère parce que j'avais peur d'oublier la personne qu'elle était avant la maladie. Lorsque j'ai rencontré les deux sœurs, Adélaïde et Lucinda, à Sydney, je me suis rendu compte qu'elles se sont pas posées du tout les mêmes questions. Et au contraire, elles sont allées voir leur grand-mère tous les jours à la maison de retraite. Et elles ont créé des jeux, des petites choses à faire pour pouvoir continuer de la voir et passer du bon temps. Et c'est-à-dire des fois rentrer dans ces histoires qui sont pas vraiment réelles, mais jamais essayer de la contredire. Et puis presque que continuer dans cette forme de storytelling, on va dire. Et ça m'a beaucoup inspirée parce que je me suis dit que si j'avais eu ces filles en exemple jeune, j'aurais facilement pu trouver des choses à faire avec ma grand-mère parce que j'étais très créative, elle aussi. Et donc voilà, pour moi, j'avais besoin du côté très personnel de l'histoire parce que c'est des petites choses qu'on peut apprendre en regardant l'histoire de ses sœurs et qu'on peut reproduire, et pas seulement avec des personnes souffrant de formes de démence, mais aussi des personnes âgées en maison de retraite ou un peu isolées. Voilà.
C'est vrai qu'il y a des choses qu'on découvre, parce que moi-même, j'ai aussi des membres de la famille qui sont atteints de cette forme de démence, des membres très, très proches. C'est très difficile, en fait, de savoir comment approcher certaines situations. Ça peut être difficile à gérer. Il y a aussi le fait que le film alterne entre des vidéos familiales filmées sur des appareils photo et des séquences cinématographiques. Quels ont été les défis créatifs ou émotionnels pour fusionner ces deux approches différentes?
C'est vrai que le téléphone a été beaucoup utilisé pour plusieurs raisons. Déjà, les filles avaient déjà commencé à filmer avant que je les rencontre. Et j'ai trouvé que c'était des moments souvent très drôles qu'on n'aurait pas pu forcément reproduire avec une équipe de tournage, etc. Et aussi, on a été beaucoup confrontés au Covid et à ses conséquences. Donc, il y a eu beaucoup de lockdown, même lorsque tout était revenu à la normale dans le reste du monde. Les maisons de retraite ont mis du temps à s'ouvrir. Et donc, c'était un bon moyen pour quand même obtenir du contenu sur la durée. Et je trouve que oui, ça rythme beaucoup parce que c'est des moments plus courts, plus intenses et souvent plus drôles. Donc, ça permet d'avoir pas seulement quelque chose de difficile et de triste, mais montrer voilà que on peut vraiment s'amuser quand même si ça dure pas forcément très longtemps, mais avoir des petits moments comme ça de rigolade avec sa grand-mère ou son grand-père.
Le fil conducteur, c'est le chant et la danse. Elle danse beaucoup. Pourquoi était-il important d'ancrer le film dans ces moments très, très forts, en fait? C'est vraiment des moments qui permettent une connexion, malgré le fait que la mémoire, elles ne peuvent pas partager certains aspects de leur passé avec leur grand-mère, mais le chant est très, très important.
Avant de commencer le film, on a rencontré beaucoup de scientifiques et la chose qui revient tout le temps, c'est la forme de mémoire qu'utilise la musique. C'est dans une partie du cerveau qui est le moins endommagée et qui reste le plus longtemps en fonction. Et donc, ça permet à des gens, même avec des formes de démence beaucoup plus avancées que Nancy, de toujours se rappeler, par exemple, de paroles ou au moins de mélodies de musique. Et, par exemple, dans le cas de danseuses, on voit que même lorsqu'elles peuvent même plus parler ni rien, elles se rappellent de certaines musiques sur lesquelles elles ont dansé étant jeunes et elles peuvent bouger en mouvement. Et donc, c'est vrai que c'est le moment, si Nancy commence à paniquer ou à devenir agitée, le fait de chanter ou de lui mettre une musique fait que ça la calme directement. Et donc, les filles ont beaucoup, beaucoup chanté dès que ça allait pas. Et du coup, c'est devenu quelque chose de récurrent et elle aime beaucoup ça. Elle avait deux chansons préférées. Et c'était presque une baguette magique. Il fallait commencer les deux premières paroles et elle se calmait directement. Ça, c'est une méthode qui marche pas forcément avec tout le monde si les personnes n'ont jamais chanté ou écouté de la musique dans le passé. Mais souvent, quand on est jeune, on écoute de la musique et retrouver les musiques de l'époque de la personne peut beaucoup aider à aussi à les rassurer, à les faire sentir en sécurité.
Et le récit fait aussi émerger des secrets de famille, dont des deux sœurs, Adélaïde et Lucinda elles-mêmes n'avaient pas connaissance. Comment avez-vous abordé ces découvertes à la fois comme réalisatrice et conteuse? Et en même temps, je suppose que vous aviez aussi une relation très forte, pratiquement une relation amicale avec les deux filles.
C'est vrai que ça a été délicat ces passages parce qu'il y a eu des experts qui sont passés pour étudier le cas de Nancy et qui ont permis de faire ces découvertes sur son passé. Mais comme c'est une personne qui souffre d'une forme de démence, on ne peut pas être sûr à 100% que ce qu'elle dit est vrai, malgré le fait que ce soit des experts qui lui ont parlé, etc. Donc, ce qui a été important pour moi au départ, c'est d'être sûr que toute la famille soit d'accord qu'on parle de ces choses-là, bien sûr. Mais aussi, ça expliquait énormément de choses sur le comportement de Nancy. Donc, c'était très important de le mettre. Et je pense que toute la famille a été d'accord, même si on n'a pas forcément tout dévoilé. On a gardé des choses aussi parce que c'est trop délicat pour la famille. Ça met trop de personnes en porte-à-faux et voilà, sans preuve, sans choses comme ça. Puis, c'était pas le but du film. C'était juste voilà de montrer que tout ce qui se passe dans notre jeunesse a des conséquences tout au long de notre vie, même lorsqu'on est atteint de cette maladie.
Cette forme de démence. Oui. Et justement, comment avez-vous veillé à préserver la dignité de Nancy tout en montrant la réalité brute de la démence? Parce que, bon, il y a des moments quand même qui sont quelques aspects où il y a comme une forme d'intrusion dans sa vie intime.
C'est vrai que Nancy, pendant toute sa vie, elle était une personne très extravertie. Elle a fait du mannequinat. Elle aimait beaucoup être en avant dans les réunions de famille. Donc déjà, ce n'est pas incompatible avec sa personnalité de départ. C'est-à-dire que ses enfants, donc le père des filles, ils ont tous été d'accord que ça aurait été quelque chose qu'elle aurait fait, hein, dans tous les cas, se mettre en avant, parler d'elle, etc. Parce que c'était un clown un petit peu. Donc déjà, pour ça, ce n'est pas en contradiction. Ce n'était pas une personne timide, retirée, etc. Et ensuite, toutes les parties un peu comme la scène de la douche, on a le son, mais on n'a pas vraiment la vision, en fait, parce que la caméra est présente dans sa chambre, mais on ne voit pas vraiment ce qui se passe dans la salle de bain, mais le son suffit à montrer que c'est quelque chose de très délicat. Et pour nous, c'était important parce que la douche, c'est l'un des premiers problèmes pour toutes les personnes atteintes de démence, c'est-à-dire que la sensation de l'eau sur le corps est très difficile à accepter lorsqu'elle n'est pas vraiment voulue. Parce qu'en fait, on oublie souvent que la plupart des formes de démence n'atteignent pas que la mémoire, mais il y a aussi beaucoup de choses physiques qui se passent dans le corps, c'est-à-dire une perte de vision, par exemple, en trois dimensions, des sensations extrêmement différentes sur le corps, aussi une perte d'équilibre, etc. Tout devient plus difficile et le champ de vision est plus court aussi, par exemple. Elle remarquait jamais le caméraman qui pourtant était très proche parce que dans une chambre de maison de retraite, il n'y a pas beaucoup de place. Et en fait, on se rend compte que elle avait comme une vision tunnel, elle arrivait à voir les personnes qu'elle reconnaissait encore un petit peu comme ses petites filles. Sinon, tout ce qui était autour, c'était trop pour elle. Et donc, son cerveau le bloquait, en fait. Ce qui a aussi aidé à pouvoir filmer ces scènes-là, parce que on n'avait pas besoin de se cacher. Elle nous remarquait même pas. Même le micro du preneur de son, c'était très rare qu'elle le voie. Et quand elle le voyait, elle pensait que le ciel lui tombait sur la tête et elle rigolait. Ça crée des petits moments un peu plus sympas.
Il y a un aspect aussi qu'il faut quand même relever, c'est être dans une maison de repos. Il y a des moments où elle veut absolument pas sortir. Est-ce que c'est important de pouvoir sortir, de pouvoir aller nager? Parce que un des fils conducteurs du film, c'est les deux filles qui essaient de redécouvrir la nage. Mais aussi sortir d'un environnement fermé. Est-ce que c'est important dans la vie d'une personne atteinte de démence?
C'est vrai que si c'est possible, c'est très important parce qu'on voit, ça fait à peu près 5 ans que je connais Nancy, elle a très peu régressé, enfin la maladie a peu pris de place, elle est très stable et c'est sûrement dû au fait que ses petites filles et son fils l'amènent marcher quasiment tous les jours. Et en fait, la stimulation physique permet au cerveau de ne pas s'endommager trop rapidement. Alors là, depuis quelques temps, elle ne sort plus malheureusement parce que physiquement, elle est trop faible. Mais comparée à beaucoup de personnes atteintes de la même forme de démence, elle aura tenu beaucoup plus longtemps et dans des bonnes conditions. C'est-à-dire que ses seules douleurs, c'est une petite douleur au genou, ce qui pour une personne de cet âge-là n'est pas grand-chose, on va dire. Et donc voilà, c'est important, sans bien sûr forcer la personne, parce que dans cette maladie, ce qui est difficile, c'est de trouver l'équilibre entre faire quelque chose qui est bien pour cette personne, mais aussi lui laisser une certaine liberté et ne pas la forcer trop.
Et y a-t-il des scènes ou des souvenirs décisifs qui ont profondément changé votre regard sur la démence ou la résilience familiale? Parce qu'il y a quand même une très forte, connexion entre les deux filles. Elles ont déménagé ensemble pour pouvoir rester proches de leur grand-mère. Elles viennent lui rendre visite quasi quotidiennement. Le papa est aussi présent. Qu'est-ce qu'on pourrait retenir des souvenirs décisifs qui ont profondément changé votre regard?
Je pense que c'est vrai que le fait que la famille soit soudée, ça aide énormément. Et une phrase qui m'a beaucoup marquée aussi, c'est celle du père qui dit: dans ces moments-là, c'est à nous de changer, c'est pas à la personne de changer. Et donc, il explique que lui-même a changé et qu'il s'occupe de sa mère comme une enfant et plus comme sa mère, mais que c'est OK, que c'est pas grave, en fait. Il faut juste l'accepter. Du coup, passer direct à l'étape suivante, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire et pas ressasser le problème de la maladie, même si c'est plus facile à dire qu'à faire, bien sûr. Ça, c'est pour le père et pour les filles aussi. J'ai trouvé qu'elles ont compris qu'en réalité, ce moment avec leur grand-mère, c'est tellement prenant parce que, surtout quand il faut la laver, etc., on ne peut pas penser à autre chose. Et dans une période de leur vie où elles ont fait des études qui étaient un peu difficiles, stressantes, etc., c'était des moments où elles pouvaient beaucoup déconnecter de leur quotidien. Et en fait, elles se rendaient compte qu'en sortant de la maison de retraite, parfois, elles avaient presque plus eu de bénéfices que leur grand-mère parce qu'elles se sentaient apaisées après parce qu'elles avaient passé une heure, deux heures en pleine présence, on va dire, et vraiment avec leur grand-mère sans être sur leur téléphone, sans penser à leur examen, etc. Donc, je pense que ça a été très intéressant. Enfin, je ne m'attendais pas à ce genre de retour, de réaction, voilà.
Vous écoutez le français sur Radio SPS.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Anna Trichet-Laurier, productrice du documentaire Nancy, un documentaire qui suit de très près deux sœurs alors qu'elles accompagnent leur grand-mère dans sa traversée d'une forme de démence. Aussi, il faut rappeler que ça a été tourné en pleine période de COVID-19. Quels ont été les moments les plus difficiles pendant cette période?
Au départ, on avait surtout peur pour elle et pour sa santé parce que déjà qu'on ne connaissait pas très bien la maladie du COVID, c'était toujours plus stressant pour les personnes âgées. Après, comme on voit dans le film, les filles ont pu lui rendre visite et lui parler par la fenêtre ou par le balcon. Et ça crée des scènes assez drôles, d'ailleurs. Mais après, pour nous, ce qui a été difficile, c'est que on avait vraiment ce projet de la faire nager. Et c'était toujours lorsqu'il faisait beau que la maison de retraite était fermée. Et donc, on a prévu des tournages et qui ont toujours été annulés. Et au final, on a essayé vraiment de la faire nager au moment où l'hiver arrivait. Donc, ça n'a pas été le résultat escompté. Mais au fond, ce qui comptait, ce n'était pas forcément l'arrivée, c'est-à-dire le fait qu'elle nage, mais bien sûr, le voyage pour y arriver. Donc, c'était presque une excuse, cette nage, pour passer du temps avec elle et filmer les interactions avec ses petites filles.
Il faut rappeler que ce film a été tourné dans l'est de Sydney, près de Marlborough, où il y a des belles plages et il y a vraiment des très 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 belles images aussi à voir dans ce tournage, dans ce film. Et après 4 ans de tournage, comment votre relation avec Adelaide et Lucinda et Nancy elle-même, comment votre relation a-t-elle évolué?
Alors, au départ, oui, c'est sûr qu'il fallait que j'aie la confiance des deux sœurs. C'était pas forcément facile. Mais j'ai aussi un très bon chef opérateur avec qui j'ai beaucoup travaillé. Il est très sensible. Et en fait, il arrive à se rendre, on va dire, invisible. Et donc, je dis aux filles de faire ce qu'elles auraient fait si on n'était pas ici. Lui, il filme. J'ai pas forcément besoin de lui dire où se mettre parce qu'il sait où se placer pour pas interférer avec la scène. Et ensuite, une fois que on commence à tourner, là, par contre, je vais pouvoir orienter et vais dire, bon, là, on a parlé de ça pendant très longtemps, est-ce que vous pouvez juste mentionner telle chose? Et en le faisant très, très discrètement, sans que Nancy l'entende, ça permet qu'elle ne soit pas perturbée, parce qu'une personne qui a ce genre de maladie, c'est très difficile de garder le fil, bien sûr. Et donc, du coup, si en plus, quelqu'un de l'extérieur intervient et coupe la conversation, c'est trop compliqué. Donc, il fallait que j'envoie des petits signes aux sœurs en disant, voilà, maintenant, on parle de telle chose, et puis elles arrivaient à changer la conversation discrètement. Donc ça faisait presque scène d'espionnage où on faisait passer des petits messages discrètement pendant qu'on tournait pour faire évoluer la scène sans que ce soit forcé et que ça perturbe Nancy. Donc, mais on a trouvé vite un rythme, etc. Et le personnel de la maison de retraite nous ont vraiment laissé faire. On était toute la journée à l'intérieur, ils s'occupaient pas de nous, ils nous des fois, si on avait besoin d'eux, ils venaient intervenir, mais c'était comme à la maison, quoi.
Oui. Et justement, vous venez de parler du personnel des maisons de retraite, mais des deux jeunes filles aussi. Il y a quand même des moments très forts, des moments de doute, des moments de faiblesse, des moments où ils sont en larmes parce qu'elles ne reconnaissent pas leur grand-mère. Et ils sont comme désespérés de ne pas pouvoir faire quoi que ce soit pour l'accompagner. Parlez-nous de ces séquences et de ces moments difficiles à vivre pour les carers.
La seule scène qu'on a réellement provoquée, c'est après avoir passé une journée dans la maison de retraite avec Nancy, on s'était dit, on va rester en se cachant et voir si elle se rappelle de notre visite directement après. Donc, elle était à table, ça faisait 2 minutes que les filles étaient parties, et on a demandé à une dame de lui parler, de lui dire, voilà, est-ce que vous avez eu la visite aujourd'hui? Et sa réaction a été directement, ah non, 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 personne ne me rend visite. Et les deux sœurs sont cachées pour observer la scène. Et elles n'ont jamais pensé que sa réaction allait être celle-ci, alors que ça faisait que 2 minutes qu'on était partis. Et ça a été très choquant, surtout pour Lucinda. Et c'est vrai que, pour le coup, le personnel, j'ai vu une très, très, très grande patience. En fait, c'est pour eux, ils savent que c'est comme ça et ils ne s'y attachent pas, en fait. Ils continuent de faire et de refaire. Après, voilà, ce qui est compliqué toujours pour les gens qui prennent soin de ces personnes, que ce soit la famille ou les employés de la maison de retraite, c'est que comment persuader quelqu'un à faire quelque chose si cette personne pense l'avoir déjà fait aujourd'hui? Et la douche ou les repas, c'est typique. Les gens pensent qu'ils ont déjà mangé, qu'ils se sont déjà douchés. Et des fois, ça peut arriver que les gens ne se douchent pas pendant plusieurs semaines. Alors, ils ont des techniques pour quand même faire tenir l'hygiène, mais c'est pas des vraies douches, etc. Mais c'est que comment on fait? En fait, on peut pas attacher une personne je sais pas, il y a pas vraiment de solution, en fait. Et donc, la nourriture, à force de convaincre, ça peut fonctionner, mais voilà, très, très difficile. Et il n'y a pas forcément de réponse à ça, même dans le monde scientifique. C'est comment, quelle est la limite entre forcer quelqu'un et respecter sa liberté. Voilà, c'est le plus dur, je pense, à naviguer pour les aidants.
Et enfin, quel conseil donneriez-vous à ceux qui souhaitent documenter et partager des histoires aussi profondes, personnelles, au sein de leur propre famille?
Je pense qu'au départ, de filmer ces petites choses comme les filles ont fait, c'est bien. Mais après, je pense qu'il faut trouver un angle qui pourrait différer de l'histoire de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, là, pour nous, c'était un peu l'excuse d'amener la grand-mère nager. En soi, c'était pas forcément important, mais ça permettait d'aborder le sujet sous un certain angle. Et c'est vrai que je pense que trouver comme ça la petite chose en plus, ça peut être pas mal. Et après aussi, quand c'est très personnel, peut-être avoir aussi des points de vue extérieurs, parce que quand on est très attaché à notre histoire ou celle de notre famille, souvent on voit plus l'image globale, on va dire. Peut-être trouver des personnes de confiance à qui on peut se dévoiler un peu, qui peuvent nous faire des retours sans qu'on les prenne forcément mal ou etc. C'est le plus dur dans toutes les formes d'art ou d'écriture, etc. C'est d'avoir se détacher de sa propre histoire et puis avoir des retours aussi qui sont positifs, qui sont bienveillants.
Internationalement, quels sont les autres pays où vous l'avez
Pour l'instant, en fait, c'est le début du parcours du film dans les festivals européens. Donc, la Bulgarie, ça a été le premier, potentiellement en France et dans d'autres pays d'Europe. Malheureusement, je peux pas encore valider parce que j'ai pas de confirmation. Mais voilà, donc c'est un début. Ça prend à peu près une année, souvent un parcours de festival. Et puis, on a aussi eu des retours de festivals en Australie, donc à l'automne sûrement. Et puis, une sortie en salle en Australie en septembre. Voilà.
D'accord. Et là, on va mentionner quelles sont les dates pour qu'on puisse les mentionner aussi, suivre.
Il va sortir pendant la Dementia Week en septembre, du 15 au 21 septembre. Donc, c'est une semaine nationale dédiée à toutes les formes de démence en Australie. Donc, on s'est dit que c'était la bonne semaine pour le sortir. Voilà. Et donc, ce sera dans les principales villes australiennes. Pour l'instant, je n'ai pas de cinéma précis à vous dire, mais voilà.
Anne-Trichet Laurier, en tout cas, merci infiniment d'avoir pris le temps de nous parler de votre film Nancy.
Super, merci beaucoup. J'ai bien aimé.
Merci infiniment.
SBS en français. Partagez nos rubriques sur Facebook.
Jeanne Chéral et sa chanson Rodrigue en ce dimanche sur Radio SBS. Voilà, c'est tout pour notre émission ce dimanche. Merci de nous avoir écoutés. Je vous souhaite un très bon après-midi à tous. Je vous rappelle également que toutes nos émissions et tous nos podcasts sont disponibles sur notre site internet sbs.com.au/french. Et bien entendu, je vous rappelle également tous nos films disponibles, les films en français disponibles sur la plateforme d'SBS On Demand, sbs.com.au/on-demand. Voilà, c'est tout pour nous pour aujourd'hui. Bon après-midi à tous et bon appétit si vous êtes toujours à table. À mardi.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.